France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Héraclès a réalisé un tour de force extraordinaire, unique. Il était né mortel. Il a vécu et il est mort. Jusque-là, c'est normal. Mais juste après sa mort, Héraclès a été accueilli dans l'Olympe et il est devenu un grand dieu, un des plus grands. Chez les humains, il est devenu l'un des dieux les plus célèbres, les plus populaires. Héraclès, le dieu, ou Hercule, chez les Romains, avait droit à des cultes partout. On l'invoquait tout le temps. Ça, c'est unique. Pas mal d'hommes ont été immortalisés par Zeus si un dieu ou une déesse le lui demandait. Mais aucun n'a obtenu une telle place d'honneur chez les dieux de l'Olympe et dans les cultes.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Là-haut, sur l'Olympe, Héraclès a mené la belle vie. Il a trouvé une jeune et belle épouse, la déesse de la jeunesse, Hébé, fille de Zeus et de Héra, le couple royal. Il lui a fait des enfants. Et il a pu enfin se consacrer à ce qu'il aime tant. Faire la fête, faire ripaille, vivre dans une rave party éternelle. On ne sait pas bien ce qu'Héraclès a fait d'autre dans l'Olympe. Il n'y a presque pas d'histoire à ce sujet. Il faut dire que cette vie continue de bonheur n'est pas très intéressante à raconter. Il suffisait de savoir qu'Héraclès était heureux. Ce qui restait dans les mémoires, ce qu'on n'arrêtait pas de raconter, de peindre, de sculpter, c'était tous les exploits fantastiques de ce héros à la force incomparable. Ses 12 travaux et tous les autres, ses victoires innombrables. On savait que pour accomplir ses travaux, Héraclès avait dû trimer, peiner énormément, mener une vie de chien qu'aucun être normalement constitué n'aurait pu supporter. Mais justement, Héraclès a su triompher de chaque épreuve, sauf la dernière, celle de sa mort, qui a été horrible. Mais même cette mort, il l'a surmontée, puisque après ses tourments surhumains, il est devenu un dieu, un bienheureux. C'est pour ça qu'il était si populaire. L'histoire d'Héraclès pouvait réconforter quand on était dans le malheur, quand tout allait mal. On invoquait son nom, on jurait en disant « par Héraclès » ou « par Hercule » et on s'ouvrait ainsi un espoir, même un petit. Il y a une histoire, au moins une, qui montre qu'Héraclès n'est pas resté inactif une fois qu'il a été admis à la société très sélecte des dieux olympiens. Il a continué à faire le monde. Je voudrais la raconter aujourd'hui. C'est l'histoire de son arc. Cet arc fabuleux qui lui avait été donné dans sa jeunesse par le dieu Apollon. Un arc divin, infaillible, qui faisait mouche à tous les coups. Il a accompagné Héraclès dans tous ses travaux, dans toutes ses guerres, toutes ses victoires. Or, cet arc va être très actif après la mort d'Héraclès. Il aura même un rôle décisif dans l'histoire humaine et divine. Cet arc extraordinaire va assurer la victoire des Grecs à Troie. Une génération après la mort d'Héraclès. C'est l'histoire de Philoctète, l'archer, l'homme qui a hérité de l'arc d'Héraclès, que je voudrais raconter aujourd'hui. Ainsi va se clore notre cycle autour d'Héraclès et de ses légendes.
Moi, j'ai réussi à tuer un horrible monstre, l'hydre de Lerne. J'ai affronté le lion de Némée et rattrapé la biche au pied des reins. Je n'ai jamais connu la peur. Il n'existe sur Terre aucune épreuve qui puisse m'épouvanter.
Héraclès n'a pas emporté cet arc dans l'Olympe. Il l'a laissé sur Terre avant de mourir. Il l'a donné à un très jeune ami qui s'appelait Philoctète, parce que ce jeune ami avait accepté de mettre le feu au bûcher où Héraclès avait été étendu vivant à sa demande. Héraclès voulait mourir, partir dans les flammes et être ainsi délivré de ses douleurs insupportables. Il vivait sa dernière épreuve, qu'il ne pouvait pas surmonter. Son corps était rongé par un poison virulent qui pénétrait ses chairs. Ce poison venait de sa femme Déjanire. Elle avait commis une énorme erreur. Elle croyait que ce venin était un filtre d'amour, qui l'aiderait à récupérer l'amour et le désir de son mari Héraclès. Celui-ci s'était épris d'une jeune fille qu'il avait amenée à la maison après une guerre où il avait détruit une ville pour s'emparer de cette fille. Déjanire offre à son mari une tunique resplendissante, tout imprégnée de ce filtre d'amour. Héraclès la revêt, mais c'était une substance mortelle qui lui dévorait les chairs. Il n'y avait pas de remède, sinon la mort. En même temps que l'arc, Héraclès a donné au jeune Philoctète toutes ses flèches. Elles étaient empoisonnées, en fait, avec le même poison que celui qui était en train de le détruire. Ces flèches apportaient une mort certaine. L'arc était donc redoutable, une arme de destruction massive, une vraie. Tout le monde l'a redoutée. Philoctète a obéi à son maître Héraclès. Il a mis le feu au bûcher, Héraclès meurt. Zeus fait gronder le tonnerre et éclater la foudre. Quand le bûcher s'éteint, on ne trouve pas les ossements du mort. C'est le signe qu'Héraclès a été emporté par les dieux dans l'Olympe. Il y a d'autres exemples d'hommes immortalisés par Zeus. L'un d'entre eux a eu la chance, comme Héraclès, d'être admis dans l'Olympe. Son histoire vaut le coup qu'on s'y arrête un peu. On verra la différence avec Héraclès, l'Olympien. C'est l'histoire du jeune et beau prince Ganymède, qui vivait dans la ville de Troie, à l'époque où cette ville était encore heureuse et débordante de luxe. Zeus remarqua Ganymède et fut pris d'une grande passion amoureuse pour lui. Comme il en avait les moyens, Zeus enleva le jeune garçon sans lui demander son consentement. Il le fit monter au ciel. Peut-être Zeus a-t-il pris la forme d'un aigle pour ce transport céleste. Il lui donna le statut de dieu. Depuis, Ganymède sert le vin lors des grands banquets dans l'Olympe. Ainsi casé pour toujours dans l'Olympe au service de Zeus, Ganymède le Troyen a échappé au malheur qui allait s'abattre sur sa ville quand une ou deux générations plus tard les Grecs sont venus détruire Troie. Zeus a aimé privilégier un prince troyen, mais les Troyens n'en ont tiré aucun bénéfice puisque leur ville est à terre. Après la chute de la ville, les femmes de Troie victimes des Grecs s'en indignent. Elles sont en colère et se moquent de Ganymède, le planqué.
C'est pour rien, ô toi, à la démarche délicate parmi les vases d'or, Ganymède, fils de Laomédon, que tu t'occupes à remplir les coupes de Zeus, ô la plus belle des servitudes. Troie qui t'a engendré est en flamme. Les rivages de la mer hurlent comme un oiseau crie pour ses petits. Là, on pleure l'homme de son lit, là des enfants, là une mère qui a vieilli. Tes bains à la douceur de rosée, tes pistes de course dans les gymnases ne sont plus là. Et toi, ton jeune visage, beau comme un jour d'embellie, tu le nourris de charme près du trône de Zeus. Et la terre de Priam, la lance des Grecs l'a détruite.
Le dieu s'est servi. Il a kidnappé une beauté pour son bénéfice à lui, mais sinon, il a été indifférent au sort des humains. Il n'y a pour les hommes aucun bénéfice à tirer du bonheur divin de Ganymède. Le jeune dieu, chéri de Zeus, n'a rien pu faire pour eux. Il n'avait aucun pouvoir. Héraclès dans l'Olympe, avec les dieux, sera nettement plus utile et décisif dans l'histoire humaine par l'intermédiaire de son arc et de Philoctète. C'est justement pendant la guerre de Troie que l'arc d'Héraclès va redevenir actif, une génération après la mort du grand héros et après son apothéose dans le ciel. L'arc d'Héraclès, manié avec virtuosité par Philoctète, va permettre de finir cette guerre interminable et incroyablement cruelle.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Avec sa foule des quatre saisons et du crêpe dans son peignoir. Sur ses échasses de béton, dans les faubourgs du désespoir, elle meurt, sa mort, la mort, elle meurt. Avec ses cordes pour la pluie, a encordé les poitrinaires, ses poumons de cendre qui prient. Fleurie des mystères. la route des jours heureux. Dans les bielles et dans le courroux, en mettant du noir sur les yeux.
Pierre-Judée de Lacombe parle de Philoctète, héros grâce à l'arc d'Héraclès.
Une génération sépare Héraclès et Philoctète. En fait, c'est énorme. Héraclès ne s'y reconnaîtrait pas s'il devait revenir vivre dans le monde de Philoctète, le monde de la guerre de Troie, des Ulysse, des Achilles. C'est un monde totalement différent de celui où il a travaillé, agi et peiné. Il est moins sauvage et moins dangereux, moins fermé. On a envie de dire plus moderne. D'une génération à l'autre, le monde s'est civilisé, ouvert. Et cela précisément grâce à l'immense travail de pionnier qu'a accompli Héraclès. En courant le monde, en le parcourant dans tous les sens, jusqu'à ses limites extrêmes, Héraclès a laissé derrière lui une terre bien différente de celle qu'il avait trouvée devant lui. En trimant, en éliminant un peu partout des monstres, des gens injustes, peu accueillants, en ouvrant de grands passages vers des pays lointains, Héraclès, le mortel errant et toujours contrarié, a ouvert sur terre, sur mer, toutes les dimensions de l'espace où les hommes peuvent agir, interagir, se civiliser, construire des sociétés nouvelles, vivre leurs histoires. Mais lui-même, il n'a pas eu sa part des bienfaits qu'il a rendus possibles. Héraclès a remporté d'innombrables victoires, mais sa vie n'a été qu'une suite de labeurs et de peines. En fait, Héraclès n'était pas très différent des monstres et des méchants qu'il a passé sa vie à éliminer. Il était d'abord une force brutale, un bulldozer solitaire. Il fallait ça pour aplanir, pour ouvrir le monde. La plupart du temps, il agissait tout seul. L'intelligence collective, il ne connaissait pas. Grâce à lui, les Grecs ont pu s'ouvrir un monde désormais élargi. Des villes ont pu éclore un peu partout. Le raffinement a pu être plus libre et s'étendre. Des sociétés plus complexes ont pu prospérer et aussi se faire de très longues guerres. Ce sont les grandes histoires que racontent l'Iliade et l'Odyssée. Alors que la génération d'Héraclès, de Jason, de Thésée, les grands pionniers, les découvreurs, n'a pas suscité de grands poèmes. Une génération après Héraclès, les hommes étaient devenus physiquement plus faibles. Ils n'avaient plus la vigueur du grand héros solitaire. Il fallait donc plus de solidarité entre eux. Du coup, des problèmes politiques surgissaient. Cogner son voisin ne pouvait plus suffire. Il fallait s'entendre, négocier. Toute action était compliquée. Mener une guerre comme celle des Grecs à Troie ou défendre sa ville était affaire de stratégie, d'accord politique, d'intelligence partagée. Dans ce monde plus complexe, la simple franchise, la droiture, la confiance dans la parole donnée perdaient de leur valeur. On discutait, on raisonnait, et surtout on manipulait pour prendre l'avantage. On cherchait par les moyens les plus subtils, et non par la brutalité seulement, ce qui rapportait, ce qui assurait du profit. Un monde nouveau, où Ulysse, le beau parleur, le rusé, l'hyper-intelligent pouvait s'en tirer et gagner. Héraclès, trop brutal, grossier, trop honnête et entier, n'aurait pas pu y vivre. On ne l'imagine pas discuter stratégie avec les généraux qui, pendant 10 ans, ont assiégé Troie. Il était du monde d'avant. Mais c'est lui, par sa brutalité rapide et triomphante, qui a permis au monde d'Ulysse de voir le jour. Pour Ulysse, Héraclès est une énigme. Héraclès n'est plus de ce monde, doublement. Il est à la fois un héros mort pour toujours, qui était vaillant et souffrant, mais qui est fini. Et un dieu lointain, inatteignable. Au cours de son long voyage de retour vers son île, Ulysse passe par les enfers.
Le chemin choisi par toi pour retrouver ta maison passe à travers l'océan brumeux, au-delà duquel se trouve la demeure des morts. Maintenant, sois prudent, tu vas entrer dans le royaume des ombres.
Je viens t'interroger, Tirésias, et connaître ma destinée.
Éloigne ton épée, laisse-moi boire le sang de cet agneau, et je te ferai connaître la vérité, Ulysse.
Il rencontre l'ombre d'Héraclès décédé. Héraclès, sous cette apparence, est toujours le même, brutal, menaçant et en train de maugréer tellement il a souffert et tellement la déesse Héra l'a persécuté. Mais Ulysse sait qu'il y a un autre Héraclès, celui qui est devenu Dieu et qui vit dans le bonheur et la lumière perpétuelle de l'Olympe. Faire le lien entre les deux est plus que difficile. Héraclès est double, irrémédiablement. Le plus vivant est en fait l'Héraclès mort dans les enfers, celui qui raconte sa vie, qui ressasse tous ses malheurs et ses exploits. Avec lui, au moins, on communique. Ulysse raconte. Le spectre d'Héraclès est le dernier qui l'aperçoit.
Après, je distinguais la toute-puissance d'Héraclès, son ombre. Lui-même, il est avec les dieux immortels. Il s'amuse à faire la fête et possède Hébé, la déesse aux belles chevilles, fille du grand Zeus et d'Héra aux sandales d'or. Autour de lui, c'était un piaillement de trépassés, on aurait dit des oiseaux. Apeurés, ils allaient dans tous les sens. Lui, pareil aux ténèbres de la nuit, il tenait son arc nu, avec une flèche sur la corde. Il scrutait tout, effrayant. On aurait dit qu'il allait tirer. Terrible autour de lui, en bandoulière sur sa poitrine, un baudrier tout en or. Y étaient façonnés des chefs-d'œuvre, des ours, des sangliers sauvages, des lions aux yeux de feu, assauts, batailles, meurtres et massacres d'hommes. Surtout que l'artiste qui a mis tout son art à fabriquer ce baudrier ne cherche pas à en composer un autre. Dès qu'il me vit de ses yeux, il me reconnut. Tout en gémissement, il m'adressa ces paroles ailées. Enfant de Zeus, né de Laerte, Ulysse aux mille ressources, ô mon pauvre, toi aussi tu traînes avec toi un destin de malheur, comme celui que j'ai porté sous les rayons du soleil. J'étais l'enfant de Zeus, fils de Cronos, mais le chagrin n'avait pas de fin pour moi. J'étais soumis à un homme qui ne me valait pas du tout. Il m'a contraint à des épreuves difficiles. Une fois, il m'a envoyé ici prendre le chien Cerbère. Il pensait qu'il ne pouvait pas y avoir d'épreuves plus redoutables. Mais j'ai pris le chien et je l'ai sorti des enfers. Hermès m'accompagnait, ainsi qu'Athéna aux yeux de lumière. Il dit cela et s'enfonça à nouveau dans la maison de l'invisible.
Sans attendre de réponse, Héraclès s'en va. Après cette triste apparition fantomatique, l'enfer se clôt pour Ulysse, qui reprend sa route. Homère a donc imaginé un Héraclès double après sa mort. L'apothéose, la montée dans l'Olympe, ne devait surtout pas faire oublier l'Héraclès humain et taciturne. Les deux, bien différents, sont indissociables. Les psychanalystes devraient bien aimer ce personnage dissocié, coupé, un moi, pour toujours divisé. C'est cela qui le rend précieux. Mais Héraclès le Céleste ne va pas rester confiné dans sa béatitude. Lui qui, par le passé, avant sa mort, a dû tellement travailler et tant lutter. Il aime bien boire et manger le plus qu'il peut. Et la vie douillette de l'Olympe doit donc lui plaire, mais quand même. Au moins une fois encore, Héraclès va intervenir directement dans le cours du monde et faire l'histoire. Une grande occasion lui sera donnée. La guerre de Troie éclate. Elle est immense. Presque une guerre mondiale. Toutes les villes grecques se sont liguées pour attaquer Troie, où était retenue la belle Hélène, cette femme grecque, enlevée par le prince troyen Paris. Pour défendre leur ville, les Troyens ont conclu des alliances avec de très nombreux peuples d'Asie. Tous les dieux de l'Olympe ont pris parti, ou pour les Grecs, ou pour les Troyens. Héraclès avait déjà mené une guerre contre Troie, et il l'a gagnée. Il était aidé par les pères des grands héros de l'Iliade, par Pélée, le père d'Achille, et Télamon, le père du grand Ajax. Mais c'était une simple guerre de rétorsion, une guerre rapide, vite menée et vite gagnée. Un coup de force, comme il sait faire. Rien à voir avec la grande guerre menée dans la plaine de Troie par Achille, Ulysse, Agamemnon et Ménélas. Philoctète, qui a grandi, participe à cette gigantesque entreprise. Il rassemble une armée de 7 bateaux, avec 50 rameurs chacun, tous de bons archers. Armés de l'arc légendaire d'Héraclès, ils s'embarquent pour Troie. Mais il n'y arrivera que beaucoup plus tard. En chemin, il persuade les Grecs de faire escale sur une petite île, Crisae, l'île d'or. Jason s'y était arrêté autrefois avec les Argonautes. Et Héraclès aussi, alors qu'il partait en campagne contre Troie. Héraclès y avait fait des sacrifices auxquels Philoctète, tout jeune, avait assisté. Philoctète veut faire une offrande à la déesse de l'île, Crisae. Mais alors qu'il marche dans l'enclos qui lui est consacré, un jardin, il est mordu par un serpent qui était caché dans les herbes. Son pied devient douloureux. La plaie s'infecte. L'ulcère gagne. Le pied devient purulent. Il dégage une odeur infecte. Et Philoctète hurle. Ses cris sont affreux. Aucune plante, aucun remède ne vient à bout de son mal. En fait, mordu par le serpent, Philoctète vit les mêmes douleurs qu'Héraclès quand, avant de mourir sur son bûcher, il était infecté par le poison de l'immense serpent à plusieurs têtes qu'était l'hydre de Lerne. L'histoire se répète, mais Philoctète ne va pas mourir. Les cris de Philoctète sont insupportables. Les Grecs ne peuvent plus accomplir aucun rite, aucun sacrifice. Ces rites demandent qu'on observe un silence sacré. Les hurlements de Philoctète ne cessent de polluer les cérémonies. Les chefs grecs, Agamemnon, Ménélas et surtout Ulysse, le plus intelligent des trois, décident alors d'abandonner Philoctète. Ils le déposent dans l'île de Lemnos, seul, avec son arc et ses flèches, et partent sans lui vers Troie. Ils l'abandonnent là pendant 10 ans. Ils le laissent croupir dans une grotte près de la mer. Philoctète en sort de temps en temps pour tuer des oiseaux avec ses flèches. Il change les bandelettes qui serrent son pied quand elles sont remplies de sang et de pu. Et il hurle à chaque crise.
Laurent Terzieff.
Philoctète est à la fois un déchet toxique, un archer fatal et un homme providentiel. C'est un athlète de la plainte, n'est-ce pas, qui n'en finit plus de clamer sa douleur et qui prolonge d'une certaine façon le cycle infernal des châtiments divins qui ne s'arrêtent jamais. Prométhée avec son foie bouffé tous les jours, Tantale éternellement tenté, puis Sisyphe et son rocher, bien sûr. Puis alors là, on a Philoctète et son pied fétide. C'est un héros paria, c'est la solitude infinie d'un homme fini, un Robinson sans Crusoe. Enfin, moi j'ajouterais que, en fait, Ulysse, en l'abandonnant sur ce crâne, ce crâne pelé qu'est Lemnos, a causé en lui une mort sociale. Il s'est, on pourrait dire, ensauvagé. Il se trouve à la frontière ou à la limite entre la condition humaine et la sauvagerie.
J'aime rôder vers les fleurs perdues dans les jardins sauvages aux parfums d'ardoises et de rue. des villes avant l'orage, la rosée de leurs yeux trop mauves reflète une lumière qui conduit parfois les vieux fauves et les anges en enfer. J'aime rôder vers les fleurs perdues dans les jardins sauvages et m'égarer dans les ciguës et dans les saxifrages, sentir la chair d'une figue verte qui s'offre lentement sur le rose d'une corolle ouverte à mon souffle tremblant. Jardins sauvages aux nuances des gris bleus des grues, des banlieues de passage, le velours de leurs lèvres humides, à l'ombre de leurs voiles, m'entraîne et m'attire vers le vide, au murmure des étoiles. J'aime rouler vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, aux parfums d'ardoises et de rue, des villes avant l'orage, suivre le jeu d'une étamine, sur un œillet violet qui s'entrouvrait, qui s'illumine d'une larme de lait.
Pierre Judet de Lacombe parle de la solitude de Philoctète, l'homme redevenu sauvage.
Philoctète est un Robinson Crusoé, ancien. Mais il n'a aucun vendredi avec lui. Il n'est pas très débrouillard. Et il dispose encore moins de ressources, à part son arc. Dans sa grotte, il s'aménage un lit de feuilles et il se taille dans un morceau de bois un bol très grossier. Il fait du feu. Et il attend, secoué régulièrement par ces vagues de douleur. Il ne souhaite qu'une chose, que des marins le trouvent, aient pitié de lui et le ramènent dans sa patrie. Son histoire a beaucoup intéressé les poètes tragiques d'Athènes. Échille, Euripide, Sophocle et d'autres encore ont écrit des tragédies portant le titre Philoctète. Seule la pièce de Sophocle a survécu. Sophocle, à la différence des autres poètes, a fait de l'île où a été abandonnée Philoctète, l'île volcanique de Lemnos, une île déserte. C'est contre toute vraisemblance historique. Mais comme ça, Philoctète est encore plus coupé du monde, coupé de l'histoire globale, humaine et divine, qui est en train de se jouer dans la plaine de Troie. Philoctète est hors de tout. La pièce de Sophocle décrit cette longue vie solitaire, désespérante et démunie.
Il ne pouvait marcher et ne fréquenter que lui-même, sans voisinage d'un compagnon de misère qui fasse écho à ses cris, aux plaintes de son mal sanglant et rongeur. Quand le sang chaud coulait de la plaie de son pied plein de vermine, personne pour endormir le mal avec les plantes calmantes qu'on prend à la terre féconde, lui se traînait, vacillant, tantôt ici, tantôt là. Il ne prenait pour nourriture ni graines de la terre sacrée, ni ce que nous cultivons, nous les hommes laborieux, rien d'autre que parfois pour repaître son ventre ce qu'atteignaient les flèches volantes de son arc rapide. Oh, la triste vie!
Pendant 10 ans de solitude, d'abandon et de maladie, Philoctète accumule une haine gigantesque, tenace contre les chefs grecs, Ulysse, Agamemnon et Ménélas, qui l'ont abandonné à son sort sans aucun secours. Philoctète vit pendant 10 ans pressé par 2 blocs de douleur, la haine et la maladie. Or, tout va changer brutalement. Pendant ces 10 années, les Grecs ont piétiné devant Troie, qu'ils n'arrivaient pas à prendre. La situation paraît désespérée. Les 2 grands héros de l'armée grecque, les meilleurs, ne sont plus. Achille est mort, tué par Paris. Le grand et fort Ajax s'est suicidé. Les Grecs ne voient pas comment ils peuvent gagner. Mais voilà qu'une révélation arrive. Les Grecs font prisonnier un prince troyen, Hélénos, fils du roi Priam. Or, cet Hélénos était un devin très fiable. Hélénos révèle aux Grecs qu'il y a 2 conditions absolument nécessaires pour qu'ils prennent Troie. Il faut qu'ils fassent venir le tout jeune fils d'Achille, Néoptolème, parfois appelé Pyrrhus, qui est encore dans son île natale, à Skyros. Les Grecs devront lui donner les armes fabuleuses d'Achille. Et 2e condition nécessaire, il faut qu'ils aillent chercher Philoctète dans son île, avec son arc et ses flèches. Seule la réunion de ces 2 héros pourra venir à bout de Troie. Pour prendre Troie, il faut donc rassembler 3 générations. L'ancienne, avec l'arc d'Héraclès, l'aîné, le héros d'avant. La génération présente, contemporaine d'Achille et des autres grands guerriers, avec Philoctète. Et la génération montante, avec le fils d'Achille, qui n'a encore jamais combattu et dont le nom, Néoptolème, veut dire « nouveau à la guerre ». Ces conditions mises par les dieux pour la prise de Troie sont très étonnantes. On sait, tout le monde sait que Zeus veut absolument la chute de Troie, cette cité qui n'a pas respecté les lois divines en enlevant Hélène. Troie doit tomber. Ça ne peut pas être autrement, et d'ailleurs, c'est bien ce qui est arrivé. Mais pourquoi les dieux, et donc Zeus en tête, ont-ils fait dépendre cette conclusion nécessaire et attendue, la fin de Troie, de conditions aussi improbables, aussi difficiles à réaliser ? La première condition, faire venir Néoptolème en lui promettant une gloire immense et facile. Et d'ailleurs, le jeune homme accepte tout de suite. Il est tout fier de pouvoir revêtir l'armure de son père. Mais la seconde, faire venir Philoctète à Troie, le réconcilier avec ceux qui l'ont si maltraité pendant 10 ans. Comment est-ce possible ? Comment convaincre Philoctète de rejoindre une armée qu'il a exclue, qu'il a humiliée avec un tel mépris ? Qui peut y arriver ? Les dieux s'amusent. Ils mettent les humains dans une situation qui semble impossible et ils regardent comment ils se débrouillent. Mais à la fin, c'est eux qui décident. Les chefs grecs discutent entre eux sur la solution à trouver pour faire venir Philoctète. Le persuader par des paroles est impossible. Les Grecs se disent que la haine de Philoctète contre eux est trop forte depuis 10 ans. Le prendre par la force est exclu. Avec l'arc d'Héraclès, Philoctète peut descendre qui il veut. Il ne reste qu'un moyen, la tromperie. La ruse, le mensonge. C'est dans les cordes d'Ulysse, l'homme fourbe et tortueux par excellence. Après des hésitations, il a peur de l'arc de Philoctète quand même, il s'y colle et prend avec lui le fils d'Achille, le jeune et encore innocent Néoptolème. Ulysse met au point un scénario. Néoptolème dira à Philoctète qu'il est lui aussi fâché contre les chefs grecs, et notamment contre Ulysse, parce qu'ils n'ont pas voulu lui donner l'armure de son père Achille, ce qui est totalement faux. Néoptolème dira ensuite qu'il rentre chez lui en Grèce et il proposera à Philoctète de l'embarquer. Quand Philoctète sera à bord, il sera plus facile de lui voler son arc et ses flèches et de l'emmener de force à Troie. Mais il faudra que le fils d'Achille, Achille, ce guerrier si droit, si honnête et plutôt psychorigide, accepte de mentir, de ruser, ce que son père s'est toujours refusé à faire. Achille a toujours été droit dans ses jambières. Mais ce n'est qu'en ne faisant pas comme son père que le jeune Néoptolème pourra acquérir une gloire comparable à celle d'Achille, en prenant Troie. Grand dilemme pour Néoptolème. Mentir, être fourbe et trahir les valeurs héroïques de son père, ou ne pas mentir et ne jamais devenir un grand héros comme son père. Selon Ulysse, la question ne se pose pas vraiment. Ce ne sera qu'un mauvais moment à passer. Si Néoptolème ment comme il faut, et s'il réussit, Néoptolème pourra ensuite redevenir lui-même, fidèle à ses valeurs et à celles de son père. Et surtout, énorme bénéfice supplémentaire. Il accédera à la gloire héroïque la plus grande. Il sera, pour toujours, le vainqueur de Troie.
Je sais que ta nature ne te porte guère à ce langage, ni aux machinations, mais ose, car il est doux d'obtenir la victoire. Nous saurons ensuite nous montrer justes. Sois à moi aujourd'hui, à peine un jour, pour une effronterie. Et le reste du temps, tu seras le plus pieux des hommes. »
Néoptolème est indigné, il résiste. Mais l'attrait de la gloire, de la victoire promise est trop fort, le profit est trop grand. Il accepte de rentrer dans la combine d'Ulysse et de tromper Philoctète par ses mensonges. Ulysse et Néoptolème, avec une troupe de marins, ont débarqué dans l'île de Lemnos. Ils ont repéré la grotte de Philoctète qui est partie chasser. Ulysse se cache, Néoptolème attend. Quand Philoctète rentre et découvre devant chez lui le jeune homme et ses compagnons, qui ont tout l'air d'être des Grecs, il est plus qu'ému.
« Io, étranger, qui êtes-vous à avoir abordé à la rame cette terre sans havre et sans habitants? Quelle patrie, quelle race dois-je nommer qui soit les vôtres? Votre vêtement a cette allure grecque que j'aime tant, mais je veux entendre votre voix. N'ayez crainte ni horreur de mon aspect sauvage. Ayez pitié d'un malheureux abandonné, seul, sans amis. Il vous implore. Parlez, si vous êtes venu en ami. »
À peine Néoptolème a-t-il dit quelques mots que Philoctète est bouleversé. Enfin, après tant d'années, il entend parler grec. Il est comme chez lui, déjà.
« Ô langage aimé, merveille, entendre l'accent d'un grec après si longtemps. »
Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce langage grec, qu'il aime tant, est censé le tromper, l'emmener là où il ne veut surtout pas aller, à Troie, et pas chez lui. Mais rien ne va se passer comme prévu. Néoptolème débite ses mensonges contre les chefs grecs. Il gagne la confiance de Philoctète. Le pauvre estropié lui demande de le conduire chez lui en Grèce. Néoptolème fait semblant d'accepter. Mais au moment où Philoctète s'apprête à quitter enfin sa grotte et son île, sa maladie l'attaque puissamment. La douleur, les cris reprennent. C'est terrifiant.
« Je suis perdu, mon fils. Je ne pourrai pas vous cacher mon mal. Atatataï, il me transperce. Me transperce, misère. Malheur à moi, je suis perdu, mon fils. Je suis dévoré, fils. Papaï. Ah, papapapaï. Papapapaï. Par les dieux, mon fils, si tu as une épée à portée de main, frappe-en mon pied, coupe-le vite. N'épargne pas ma vie. Allons, fils. »
Philoctète a tellement mal qu'il confie son arc à Néoptolème, avec ordre de ne le céder à personne. La maladie attaque encore plus fort. Philoctète demande à Néoptolème de lui faire ce qu'il a fait à Héraclès autrefois pour le délivrer de ses souffrances. Le jeter dans un feu, dans le volcan de l'île de Lemnos.
« Ce suintement de sang me tue. Il sourd du fond de ma plaie et je m'attends à un accès. Ô enfant, noble enfant, empoigne-moi donc. Invoque, généreux, le feu de Lemnos pour me brûler. C'est ce qu'un jour moi aussi j'ai cru devoir faire pour Héraclès, le fils de Zeus, en échange de cette arme dont tu as la garde à présent. Que dis-tu, mon fils? Que dis-tu? Pourquoi te taire? Où es-tu, enfant ? »
Néoptolème le rassure et jure qu'il ne l'abandonnera pas. Philoctète s'apaise. Le mal s'éloigne, il va rôder ailleurs. Philoctète enfin s'endort. C'est là que tout se joue.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Can you turn up a bit more? Thank you. Her eyes, and she's lost in the moment.
Pierre-Judée de la Combe parle de Philoptète. L'archer, indispensable à l'histoire du monde. Jean Jourdeuil, traducteur.
L'arc d'Héraclès, du coup, a une fonction un peu particulière, c'est l'arme absolue, hein, c'est l'arc d'Héraclès. C'est, si on veut chercher des analogies aujourd'hui, on dirait bombe atomique. C'est l'arme imparable.
La pitié envers Philoctète a envahi Néoptolème. Sa décision de suivre le plan machiné par Ulysse s'affaiblit. Il n'arrive plus à mentir à ce Philoctète qu'il a vu tellement souffrir. Philoctète se réveille. Néoptolème hésite, puis finalement lui dévoile tout. L'oracle impérieux, qui dit que lui, Philoctète, doit aller à Troie et combattre avec son arc. L'oracle disait aussi qu'il serait délivré de sa maladie par des médecins. Néoptolème insiste. Pour son propre salut, Philoctète doit accepter de devenir l'ami de ses pires ennemis, Ulysse, Agamemnon, Ménélas. Philoctète enrage, refuse, crie à la trahison. Il réclame son arc. Néoptolème refuse de le rendre. Il pense toujours qu'il peut convaincre Philoctète. Ulysse surgit comme un mauvais diable, se moque de l'homme malade et désarmé, et lui dit qu'il n'a pas le choix. Philoctète résiste, hurle, non pas en raison de sa maladie, mais par colère. Il menace de se tuer en se jetant du haut d'un rocher. Ce serait la catastrophe pour les Grecs. L'oracle disait bien qu'il faut pour prendre Troie, non pas l'arc seulement, mais Philoctète lui-même. Mais lui ne veut rien entendre. Les Grecs sont désemparés. S'il laisse Philoctète seul sur son île, et cette fois sans son arc, il va mourir. Il ne pourra plus se nourrir. Et les Grecs ne prendront jamais Troie. Néoptolème est ému par la détresse de Philoctète, par sa colère qui rappelle tellement celle de son propre père Achille, l'inflexible. Et surtout, il est bouleversé de s'être rendu coupable d'une injustice, d'un crime, d'une lâcheté, en trompant Philoctète. Néoptolème prend alors une décision inouïe. Il s'avance doucement vers l'enragé et lui rend son arc. Philoctète n'en revient pas. Néoptolème tente de le raisonner. Comment lui, qui souffre horriblement, peut-il refuser d'être soigné et en plus refuser d'acquérir une gloire magnifique? Certes, le prix à payer est réel. Ce prix sera de s'afficher avec ceux qui l'ont humilié et déshonoré. Mais, demande Néoptolème, n'est-il pas légitime de calculer ses actes en termes de profit, de bénéfices qu'on en retire? Philoctète gagnerait plus à s'adoucir qu'à s'obstiner. Mais Philoctète s'obstine. Il refuse cette logique marchande et s'en tient à son refus radical de pactiser ne serait-ce qu'un temps avec ses pires ennemis. Il n'y a pas de profit qui compte. Néoptolème respecte sa décision et s'engage sincèrement à ramener Philoctète chez lui, à ne plus essayer de le conduire à Troie. Les deux amis, le vieux guerrier et le jeune fils d'Achille, s'apprêtent à partir ensemble et à abandonner tous les autres Grecs à leur sort. Le fils d'Achille est donc prêt à répéter ce qu'a fait son père quand il s'est mis en colère et est rentré sous sa tente au lieu d'aller combattre les Troyens. Cette décision de Néoptolème, faire bloc avec Philoctète, aurait, si elle se réalisait, des conséquences immenses pour les Grecs. Sans Philoctète, sans son arc et sans Néoptolème, les Grecs ne pourront jamais prendre Troie. La société grecque sera irrémédiablement divisée. Avec son arc, Philoctète dispose d'une redoutable arme de destruction, une arme dévastatrice, si jamais les chefs grecs tentent de s'en prendre à lui ou de punir Néoptolème. Tout est bloqué. La Grèce doit renoncer à prendre Troie, et donc à sa grandeur. Mais Héraclès ne peut pas laisser faire ça. Toute l'œuvre de sa vie s'effondrerait, et les dieux ne peuvent pas vouloir que Troie soit épargnée. En plus, Héraclès aime son protégé, Philoctète. Il ne veut pas qu'il se perde, par fierté excessive, dans l'inutilité, dans une guerre civile contre tous les autres Grecs, et dans une souffrance perpétuelle. Héraclès le dieu, Héraclès le céleste, apparaît dans les airs. Il empêche les deux nouveaux amis de prendre la mer pour s'éloigner à jamais de Troie. Il rappelle brutalement Philoctète à l'ordre.
Pas encore, Philoctète, fils de Poïas, pas avant d'avoir écouté ma parole. Oui, c'est la voix d'Héraclès que tu entends de tes oreilles, son visage que tu vois. C'est pour toi que je viens, que j'ai quitté mon séjour céleste. J'ai à t'annoncer les volontés de Zeus, à t'arrêter sur le chemin que tu prends. écoute ma parole. »
Puis Héraclès ordonne à Philoctète d'arrêter sa colère, d'obéir à l'oracle et donc de se rendre à Troie où il sera guéri et où, avec Néoptolème, il obtiendra la gloire. Bref, Héraclès demande à Philoctète de réaliser sans rechigner ce qu'Ulysse et les chefs grecs attendaient de lui. Héraclès ajoute que son arc extraordinaire, déjà victorieux une fois à Troie, doit l'être une seconde fois. Philoctète dit tout de suite qu'il obéira.
« Toi qui me fais entendre ta voix désirée, toi qui reparais après si longtemps, je ne serai pas rebelle à ta parole. »
Philoctète s'embarque avec Ulysse et Noptolème pour Troie. Là-bas, il fera des merveilles avec son arc. Il tuera à Paris. Troie pourra être prise. Et voilà, 10 ans de colère effacés d'un seul coup. Philoctète avait réussi à sortir de son état d'homme sauvage et solitaire en construisant difficilement un début d'amitié avec Noptolème. Avec cette amitié, il pouvait défier tous les Grecs. Tout cela est balayé en un instant parce qu'un dieu, Héraclès, est venu parler en face directement et autoritairement. Le destin de Troie, tel que Zeus l'a voulu depuis toujours, va donc se réaliser. L'histoire va suivre son cours. Mais à quel prix ? Les humains se seront agités tant et plus, mais ce n'est pas cela qui fera l'histoire. Les hommes se braquent, se mettent en colère, puis se dénouent. Pendant un temps, ils rusent, ils manipulent, puis ils essaient au contraire d'être honnêtes. Mais dans ce va-et-vient incessant des opinions et des comportements, même la bravoure et l'honnêteté deviennent une question de profit, de gain pour soi-même. Ça se calcule. Même Néoptolème, qui veut faire le brave, essaye de convaincre l'entêté et fier Philoctète qu'il aurait plus de profit s'il cédait, s'il composait avec les autres. Les dieux sont indifférents à tout cela. Ils laissent faire un temps, puis comme Héraclès, ils tranchent brutalement. Ils le peuvent, et ce n'est pas à discuter. Les dieux, finalement, c'est le réel. C'est ce qui fait que ce qui doit arriver, ça arrive vraiment. Ça tombe sur la tête des humains. Héraclès, le divin, fait que la guerre de Troie va finir comme elle devait finir. Mais quel changement ! Avec l'époque où Héraclès était bien vivant et humain, où il s'activait dans le monde et faisait l'histoire à lui tout seul. Lui, il ne discutait pas trop, il agissait, fonçait, et envoyait le résultat. Dans le monde plus récent, celui où vit et s'agite quelqu'un comme Ulysse, il faut négocier, argumenter, faire semblant. Règne la ruse, le calcul, les stratégies. Héraclès, le dieu, ne se soucie pas de ses subtilités. Il continue à foncer, il tranche et impose ce qui doit être. Ce qu'il va imposer en tant que Dieu sera nécessaire, inévitable, bien au-delà des stratégies toujours changeantes des humains.
Jean-Pierre Siméon, dramaturge.
Moi, ce qui me passionne, effectivement, c'est le statut même de ce texte, dont je pense que c'est une pseudo-tragédie, même, je veux dire, celle de Sophocle. Et moi, quand j'entreprends de réécrire ça, je suis sensible à ça, c'est-à-dire que c'est un lieu de désagrégation, si je puis dire. Je disais que c'était, au fond, la tragédie de la décomposition du héros, peut-être même de la décomposition des dieux. Tout s'effondre, effectivement. Et donc, il n'y a plus cette transcendance. Dont la seule noblesse qui reste, le seul exaucement, la seule hauteur qui reste à Philoctète, c'est la langue. Et c'est encore là qu'il s'accroche à quelque chose, à une grandeur perdue.
Mais ce monde peu fiable et fantasque des humains pouvait aussi offrir bien des plaisirs à un dieu aussi inflexible et bourru qu'Héraclès. Une fois, et ce sera une toute petite et dernière histoire, la brutalité primaire et grossière d'Héraclès sera totalement à son aise avec la roublardise humaine, pourvu qu'on mange bien. Une histoire comique qui résume bien cet Héraclès que nous suivons depuis 6 semaines. Héraclès, transformé en dieu de l'Olympe, doit négocier avec des hommes indélicats, des Athéniens, qui ont en tête de faire chanter les dieux, de les embêter, de les dominer. C'est le monde à l'envers. Ces Athéniens ont réussi à bloquer les fumées des sacrifices. Or, ces fumées sont la nourriture quotidienne des dieux, à condition qu'elles montent jusqu'au ciel. Mais ces Athéniens ont pactisé avec les oiseaux, ces êtres aériens, qui sont des intermédiaires entre les dieux du ciel et nous. Dans les airs, les oiseaux ont construit des murs qui arrêtent les fumées. Mais ça n'empêche pas ces Athéniens, qui aiment la volaille, de faire rôtir de temps en temps quelques oiseaux, quelques-uns de leurs nouveaux alliés. Aristophane, le poète comique, met en scène ces hommes peu recommandables dans sa pièce « Les oiseaux ». On y voit Héraclès, qui descend du ciel avec une délégation de dieux. Il doit négocier un accord avec ces hommes pour qu'ils libèrent les fumées des sacrifices. Quand Héraclès découvre et hume les volailles que les Athéniens sont en train de faire rôtir, il est tout de suite d'accord pour tout céder à ces humains. Leur viande paraît trop bonne. Mais Héraclès a quand même une vraie inquiétude qui le taraude, leur pratique culinaire. La recette suivie ne lui semble pas être la bonne.
Mais quoi ? Tu mets d'abord du fenouil râpé.
Inquiet, Héraclès dit aux autres dieux et aux Athéniens d'aller discuter ailleurs. Lui, il s'occupera de la cuisson des volailles.
Vous êtes d'accord pour que je reste ici et surveille les viandes ? Vous, allez-vous-en.
Nous laisserons Héraclès à cette activité qu'il aime tant. Le cycle d'une année de dieux et de déesses qui rôdent un peu partout sur la Terre s'achève ici. Leurs aventures et celles des héros et des héroïnes reprendront en septembre. Il y a encore tant d'êtres incroyables, dingues et déroutants à suivre à la trace. Et pas n'importe qui, mais des poids lourds. Achille, Ulysse et tant d'autres. En attendant, dieux et demi-dieux continueront à montrer le bout de leur nez cet été dans plusieurs rediffusions le dimanche à 14h. On commencera par le commencement, par le grand Big Bang divin qui a fait le monde et nous.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Valérie Lavalard et le mixage par Cédric Châtelus. Bonne journée sur France Inter.